Voilà, bonjour à tous. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Vivre l'Évangile ». Vivre l'Évangile, ce qui semble un peu être un titre classique, bateau, mais on va voir que ce n'est pas le cas. Vous le savez, depuis plusieurs dimanches maintenant, nous avons entamé une série sur l'épître de Tite, que nous allons faire en intégralité. Nous étions donc arrêtés au milieu du chapitre 2, c'est-à-dire que nous arrivons à la moitié de l'épître. Et ce n'est pas anodin comme remarque, parce que nous allons rentrer aujourd'hui dans le cœur même de l'épître, qui conditionne tout ce que nous avons vu jusqu'ici et tout ce que nous verrons après. Nous sommes au cœur de l'épître et nous allons voir que le cœur de l'épître qu'a placé Paul, l'apôtre, donc l'auteur, à cet endroit, il a placé l'Évangile. Et ça, ce n'est pas anodin. Vous le savez, les livres de la Bible sont très structurés. Ce n'est pas simplement mis ça comme là, là comme ça, n'importe comment. Tout est minutieusement choisi. C'est aussi ce qui fait la beauté de la parole de Dieu, ce trésor très bien écrit. Nous avions vu donc ensemble, pour resituer un peu, nous remettre en jambes, le contexte de la lettre. Nous avions vu l'exemple de l'apôtre, nous avions vu l'établissement des anciens et toutes les caractéristiques que Tite devait rechercher chez les personnes et que les personnes qui allaient être anciens devaient travailler. Nous avions vu l'attitude à avoir envers ceux qui enseignaient les églises de Crète et qui enseignaient n'importe quoi. Donc là, une nouvelle mission que donne l'apôtre à Tite. Et enfin, nous nous étions arrêtés sur les diverses instructions pour les membres d'église. Et donc là, ça avait été assez large. Je vais y revenir. Ce qui est intéressant dans cette épître de Paul, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme en suivant la structure habituelle de l'apôtre. D'habitude, dans la grande majorité de ses épîtres, Paul va commencer par un développé théologique, doctrinal, souvent d'ailleurs comprenant une prière. Et une fois qu'il a exposé la doctrine, il va en exposer la pratique, la mise en pratique. Et souvent, ces épîtres sont structurées de cette manière. Première partie théologique, deuxième partie, mise en pratique de la théologie qu'on vient de voir. Vous en êtes probablement aperçu avec l'épître de Tite, mais Paul a fait l'inverse. Il a commencé par la pratique. Et maintenant, il va remettre, comme on dit, l'église au centre du village, il va remettre l'essence même de cette pratique, d'où elle vient. Et donc, on va voir ce matin de la doctrine. L'Évangile, comme je l'ai dit, le cœur de l'épître. Alors pour nous, l'Évangile, c'est quelque chose d'acquis, on l'a entendu. Nous avons donné nos dieux au Seigneur suite à l'écoute et à l'acceptation de l'Évangile dans nos vies. Donc pour nous, c'est un acquis. Paul, tu vas rien nous annoncer de nouveau. Peut-être. Mais ça vaut le coup, toujours, de se rappeler pourquoi nous sommes là et pourquoi nous suivons le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. C'est pour ça que l'apôtre l'a placé au cœur de son épître, l'Évangile. Nous allons voir ensemble trois éléments de l'Évangile. La grâce de Dieu, qui n'est pas n'importe quoi, hein, chose importante. L'œuvre du Christ. Et la troisième, la mission. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Tite, au chapitre 2, verset 11. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de la Bible, bon, déjà, le texte, je vous l'ai mis, j'espère que vous avez de bons yeux, ça fait peut-être un peu petit, mais si vous la cherchez, que vous souhaitez votre support, c'est une petite épître qui se trouve plutôt vers la fin de votre Bible, c'est l'une des dernières épîtres de l'apôtre Paul, donc c'est après les épîtres de 1 et 2 Timothée, vous avez trouvé Tite, et avant la petite de Philémon, si vous les cherchez. Je fais donc la lecture des versets 11 à 13 pour nous parler de la grâce de Dieu. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, une vie juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Et nous allons, dans un premier temps, nous arrêter là, sur ces trois versets qui ont déjà pas mal de choses à nous dire. Dans les versets précédents, Paul a exigé un comportement conséquent de tous les membres du peuple de Dieu. Vous vous souvenez, il s'est adressé à la catégorie des hommes âgés, ensuite la catégorie des femmes d'âge mûr, ensuite des jeunes femmes et ensuite des jeunes gens. Et donc on avait vu qu'il y avait des exhortations, des instructions pour chaque catégorie afin que toutes les personnes qui composent l'Église se retrouvent dans une catégorie. L'objectif était affiché, je le rappelle quand même, c'était le verset 10, le témoignage de l'Église dans la société. Se comporter d'une bonne manière, de la manière digne de l'Évangile, afin de témoigner aux gens du monde du changement radical que le Seigneur opère dans notre vie. Donc, tout ça, on l'avait vu. Désormais, l'apôtre va mettre en avant l'un des grands buts de notre salut, à savoir vivre la sainteté dans la sanctification. Alors là, tout de suite, on est dans des mots un peu techniques. La sainteté, c'est la proximité d'avec Dieu. C'est lui qui nous rend saints. Nous sommes saints parce que nous avons une proximité d'avec Dieu. Ce n'est pas la pureté et la sainteté, hein, parce que souvent, c'est le raccourci qu'on fait. Et la sanctification, c'est le chemin de la pureté que nous empruntons tous, où nous cherchons à ressembler toujours plus à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc les deux vont de pair, mais ils découlent de l'Évangile, et c'est un des buts de notre salut. Nous sommes sauvés pour être un peuple saint, et un peuple qui rend un culte à l'Éternel. J'espère que pour vous, c'est un acquis, cet objectif. C'est d'ailleurs, j'imagine, la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Vous êtes là ce matin parce que le Seigneur vous a sauvé pour être là ce matin. Ok. Pour ce faire, Paul nomme l'essence même de notre sainteté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et c'est une grâce, nous allons le voir, qui est en trois temps. La grâce passée, la grâce présente et la grâce future. Pour ce qui concerne la grâce passée, l'apôtre nous dit qu'elle s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est révélée, c'est passé. La révélation de la grâce de Dieu, elle a déjà eu lieu. Ce verset semble peut-être court, mais il est lourd de sens pour tout être humain. Pourquoi ? Parce qu'il renferme à lui tout seul la clé du salut. Et le salut, c'est en général quelque chose qui nous intéresse, car découle du salut la vie éternelle. C'est pas rien. Dans ces quelques mots, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Paul ne dévoile pas ici un secret, il affirme une vérité. La grâce s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Vous le savez, depuis la chute d'Adam, nous sommes tous pécheurs. C'est une caractéristique que tous les humains ont de tout temps. Notre représentant, c'est Adam, et donc nous sommes tous pécheurs. Et donc, à cause de cette caractéristique que le Seigneur ne voulait pas, la justice de Dieu nous condamne. De fait, condamnation donc pour tous. Tous les êtres humains sont concernés par cette condamnation, vous le rappelez, Romains 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et la condamnation aussi nous est donnée. À Adam, le Seigneur avait dit, si tu ne m'écoutes pas, tu mourras. Et Paul d'ajouter en Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous sommes tous condamnés par la justice de Dieu à cause de notre état de pécheur, et notre condamnation, c'est la mort. Autrement dit, du point de vue purement de la justice de Dieu, aucun être humain ne peut prétendre au salut. Ça, c'est si Dieu était seulement juste. Mais heureusement, Dieu est aussi amour. Heureusement pour nous. Pour obtenir le salut, il est donc nécessaire d'obtenir de Dieu, du juge, sa grâce. La condamnation, elle est déjà pliée. Bon, c'est un fait. Donc, notre seul espoir d'échapper à la justice, c'est que le juste juge nous fasse grâce dans sa compassion et dans son amour. Et cette grâce, elle a été révélée en Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour accomplir la loi à notre place. La venue de Jésus sur terre, c'est la preuve de son amour pour nous. Il s'est dit, puisque les hommes sont condamnés, et parce que je les aime et que je ne veux pas qu'il en soit ainsi, eh ben je vais prendre leur condamnation, c'est moi qui vais la porter, c'est moi qui vais la subir, pour qu'eux ne la subissent pas. Si c'est ça, c'est pas ça une preuve d'amour, uniquement par amour, comme un cadeau inabordable et surtout immérité qu'il nous a offert. Pourquoi je dis immérité ? Souvent, quand on offre un cadeau à quelqu'un, pour son anniversaire ou pour Noël, c'est pas parce qu'il l'a mérité, c'est parce qu'on aime la personne. Et donc, on lui offre quelque chose en vue de lui faire plaisir. C'est une marque d'amour. Il en va de même pour le salut. À ceci près que Dieu ne l'offre pas à des amis, à des gens qu'il aime bien. Il l'offre à des ennemis. Et ça, ça change tout. Parce qu'en tant que pécheurs, notre salut, notre statut auprès de Dieu a changé. Nous sommes classés comme des ennemis de Dieu. Et si vous lisez les deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains, il faut être accroché, hein. Des ennemis de Dieu, eh ben, le Seigneur, dans sa grâce, offre le salut par amour à des gens qui sont ses ennemis. Et ça, c'est scandaleux. Je vais y revenir. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau inabordable. Personne ne peut se le payer. Personne ne peut assurer sa justice devant Dieu. Et surtout immérité, c'est-à-dire que « Oh, je me suis bien comporté, donc quelque part, il me fait grâce parce que je le mérite. » Non, pas du tout. C'est pour ça que ça s'appelle la grâce, parce qu'elle n'est pas méritée. Il nous l'offre. Pour quelle raison ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Le verset 11 pourrait être mal interprété et laisser entendre que tous les hommes sont alors sauvés. C'est le principe humaniste. « Ah, c'est bon, Christ est mort pour tous les hommes, donc tous les hommes sont sauvés. » Mais ce n'est pas ce que dit Paul ici. Il dit que son œuvre de substitution, le fait qu'il prenne notre condamnation à notre place, elle est suffisante pour la rédemption de tous les hommes. Et ça, c'est vrai. Mais seuls ceux qui reçoivent réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur sont sauvés. Et ça, c'est pas tout le monde. En fait, cette offre de salut, elle est soumise à condition. Comme vous entendez les publicités à la radio, offre soumise à condition. Ben, le salut est une offre soumise à condition. La condition, c'est quoi ? C'est la foi authentique. De croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il a vécu la vie de parfaite obéissance que j'aurais dû mener, il l'a fait à ma place, et qu'il est mort pour moi pour payer mes fautes, et qu'il est ressuscité en vue de ma justification. Si tu crois ça, que tu fais de Jésus-Christ ton Sauveur, que tu l'acceptes, et que tu fais de lui ton Seigneur, c'est-à-dire que tu acceptes que ce soit lui qui dirige ta vie pour le restant de tes jours, alors, à ce moment-là, tu es au bénéfice du salut. Sans ça, la condition n'est pas remplie. Dieu a fait sa part, mais la tienne n'est pas faite. La foi authentique est la condition du salut. Et Paul le rappelle très bien, chapitre 3, chapitre 4 de l'Épître aux Romains, si c'est le sujet qui vous intéresse. Donc là, on vient de voir la grâce de Dieu dans l'aspect passé. À qui c'est fait, Jésus-Christ a fait l'œuvre qui nous sauve. Maintenant, le présent, c'est celui qui va nous intéresser, lequel on va consacrer le plus de temps ce matin. La grâce, elle ne fait pas que nous sauver. c'est pas je vous sauve, puis maintenant, vous vous débrouillez, faites ce que vous avez à faire. Non. Elle nous éduque, dit l'apôtre Paul, à l'école de la sainteté. L'ancienne alliance était conditionnée par l'obéissance à la loi mosaïque. Mosaïque, parce que c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc, mosaïque. Sous la nouvelle alliance, les choses ont changé, nous sommes enseignés par la grâce, c'est-à-dire vivre la liberté que le Christ nous a acquise. Nous ne sommes plus donc dans le « fais cela et tu vivras ». Nous sommes dans le « Jésus-Christ a fait, donc tu peux vivre ». Et ça change tout. La grâce de Dieu, elle apporte un changement radical. C'est souvent ce que traduit la Semeur quand elle dit en vue du baptême « changer radicalement ». Le changement radical dans notre rapport avec le Créateur. En conséquence, le chrétien doit vivre en harmonie avec cette haute position dans laquelle son Sauveur l'a placée, la position d'enfant de Dieu. Eh oui, notre statut a changé, et donc on doit vivre en conséquence de notre nouveau statut. Je ne sais pas si j'ai mis ce verset, si je l'ai mis. Romains 6, chapitre 2, Paul écrit « Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ?» C'est-à-dire qu'il y a un changement de logiciel qui doit s'opérer dans notre tête et dans notre vie, dans notre manière de vivre les choses. C'est une manière de vivre impactée par l'Évangile. En considération de ce que Dieu a fait pour nous, notre manière de vivre, elle change. Et c'est ce que l'on manifeste par le baptême, pour ceux qui étaient là dimanche dernier. Ce changement comprend plusieurs éléments. Le premier, Paul le dit, c'est se détourner de tout mépris de Dieu. Autrement dit, c'est l'impiété. Ce que Jude 4 appelle, donne comme définition, c'est le travestissement en débauche de la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul maître et Seigneur. C'est-à-dire que quand tu considères que Jésus-Christ a fait tout cela pour toi, qu'il est mort pour toi, tu ne peux pas vivre comme si ça n'avait pas eu lieu. Comme si c'était simplement un acquis intellectuel et puis ça s'arrête là. Non. Sinon, ça veut dire qu'on renie son œuvre pour nous. Autrement dit, qu'on n'est pas vraiment chrétien. Ça n'a aucun sens si l'on considère Dieu comme celui qui nous sauve uniquement par grâce. Mépriser celui que l'on doit considérer comme le plus important de notre vie pose un sérieux problème de témoignage. Ensuite, rejeter les passions des gens de ce monde. Ça, c'est particulièrement difficile. Difficile dans un monde qui est si attrayant, où suivre le mouvement de la société est la norme. Il ne s'agit pas ici seulement de péchés d'ordre sexuel, mais aussi de la convoitise, de la richesse, de la puissance, du plaisir, de la célébrité, etc., etc. Toutes ces choses qui, en tant qu'être humain, nous font envie. Alors, quelle place dans notre cœur ces passions occupent ? Est-ce que je me dis « non, elles sont au fond » ou est-ce qu'en fait, dans les faits, ça m'intéresse quand même. Comment est-ce qu'on vit avec ça, notre vieille nature? Est-ce qu'elles sont plus importantes que ce qui plaît à notre maître? Si tant est qu'il soit bien notre maître. Troisième élément, c'est de mener une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Le changement radical de la grâce de Dieu ne concerne pas uniquement du rejet, mais aussi une nouvelle manière de vivre cette nouvelle vie que Christ nous a acquise dans sa mort. Elle nous apprend à vivre sobrement, en mettant un frein à nos propres désirs et à notre volonté toute humaine, en menant une vie pleine d'équilibre et de maîtrise de soi. Elle nous apprend à vivre de manière juste, en considérant la justice de Dieu, celle qu'il nous a manifestée à la croix et dont nous sommes au bénéfice. Elle nous apprend à vivre pieusement en étant consacrés pour Dieu C'est ce que Paul dit aux Colossiens, chapitre 1, verset 10, en parlant de la piété. « Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, notez-le bien, ça va être utile pour la suite, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » La sagesse, la justice et la piété sont les vertus qui doivent nous caractériser en tant qu'enfants adoptés par Dieu dans sa grâce. On touche là au sujet même de notre identité. Qui suis-je ? C'est une question essentielle, surtout chez nos jeunes. Qui suis-je ? Si tu te définis comme chrétien, si tu te définis comme chrétienne, qu'est-ce que ça implique ? Nous ne croyons pas au fait d'être des chrétiens non pratiquants. Ça n'existe pas. Soit on sert le Seigneur, soit on se sert nous-mêmes. Soit on sert le monde, soit un autre maître. Soit on sert le péché, soit on sert Jésus-Christ. Il n'y a pas d'entre-deux. La Bible est très claire sur le sujet. Le compromis est impossible. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Lorsque je considère l'œuvre de Dieu pour me sauver, alors que je ne le méritais pas, encore une fois, on ne peut vivre comme si ce fait le plus important de toute notre vie, celui qui nous donne la vie éternelle, n'était que secondaire. Ça n'a pas de sens. Il y a un truc là qui ne colle pas. Alors, la semaine dernière, nous avons assisté à des baptêmes. Mais le baptême marque un témoignage important. Vous avez entendu le témoignage oral, mais il y a le témoignage en acte que vous avez vu là. L'enterrement de la vieille nature. On témoigne aux gens que l'ancien moi qui vivait selon le monde, selon les désirs, selon mon péché, est mort. C'est fini. Je ressuscite en une nouvelle personne qui ne vit plus comme avant, mais qui vit selon le Seigneur. C'est le témoignage que nous avons vu en acte. C'est le témoignage que nombreux d'entre nous avons fait. Est-ce qu'on vit encore comme celui que nous avons enterré devant tout le monde? Ou est-ce qu'on vit comme celui qui est sorti de l'eau? Nous sommes une nouvelle identité en Christ, une nouvelle orientation de vie. Certes, nous vivons toujours dans ce monde. Je ne vous apprends rien. Mais nous en avons été moralement retirés. Et c'est ce que dit Paul en Galates, chapitre 1, verset 4. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. Dans quel but ? Afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Dieu nous en a retirés. Ce n'est pas pour y retourner. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. En plus, c'est la volonté de Dieu, celle que nous ne vivions plus à la manière du monde. Vous connaissez cette phrase ? Nous vivons dans ce monde, mais pas pour ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais pas pour ce monde. Il n'est que le lieu, j'ai lu ça dans un commentaire, je l'ai noté, il n'est que le lieu de notre pèlerinage, mais pas notre patrie qui est au ciel. Votre passeport, c'est le passeport du ciel, c'est plus un passeport terrestre. Nous sommes ici pour un temps, pour une période, pour une mission particulière. Mais nous sommes des étrangers sur la terre. Si vous êtes attentif, le lien avec la prédication précédente sur Tite est alors évident. Cet impact de la grâce sur la vie ne concerne pas seulement quelques-uns. Nous sommes tous concernés. Dans nos courants chrétiens, on fait parfois la différence entre les chrétiens dits « lambda » et les disciples de Christ, comme s'il y avait deux strates. Et les chrétiens, c'est la première étape, et puis après, on évolue pour devenir des disciples. Mais sauf que la Bible, elle ne fait pas cette distinction. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ, celui qui est son sauveur et celui qui est son Seigneur. Donc ça, c'est pour la partie présent, maintenant, qui me concerne, moi, personnellement, avec ma marche avec le Seigneur. Est-ce que je suis transformé radicalement? Est-ce que je travaille à ma sanctification tous les jours? Ou est-ce que je vis comme quelqu'un du monde? Est-ce que je me repens avant de prendre la Sainte Cène, comme on l'a fait là, quand on doit s'examiner soi-même? Comment est-ce que je suis avec le Seigneur? La troisième temporalité de la grâce, c'est la temporalité future. On a vu la temporalité passée, présente, maintenant future. Après avoir regardé ensemble la grâce de Dieu révélée par le Christ et le changement radical qu'elle produit dès maintenant, portons nos regards vers l'avenir, la révélation de la gloire du Christ. Tout ce que Paul vient de dire pour le présent se fait dans un état d'esprit, l'attente de la réalisation de notre bienheureuse espérance. C'est ce qu'on lit. Le texte est dense, quelques versets, il y a des choses. L'attente de la réalisation de notre bienheureuse espérance. De quoi on parle? Ça ne vous aura pas échappé, la vie ici-bas n'est pas toujours facile et pas toujours agréable. Alors encore en France, ça va. En ce moment, il ne fait pas bon d'être un chrétien ou même qui que ce soit au Moyen-Orient. Ça ne vous aura pas échappé. L'attente est même plutôt pénible. Il y a des tentations, il y a le péché, il y a notre nature corrompue, il y a la méchanceté des hommes, etc., etc. En tant que chrétiens, nous savons que le temps de ce monde est compté. Il n'est pas indéfini. Il y a une notion de finitude dans la création actuelle, création corrompue par le péché. Le Seigneur, à un moment donné, va y mettre fin. Et on ne sait pas quand. Ça peut être tout à l'heure en rentrant du culte, On n'en sait rien. Pour beaucoup de gens, ce qui compte, c'est de laisser une bonne trace de leur passage sur terre. Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien, qui a fait des bonnes choses pour avancer l'humanité, etc. C'est souvent ce que j'entends. Sachant que, pour finalité, il n'y a que le néant. Ça, à titre personnel, j'ai un peu plus de mal. Je ne sais pas comment moi je vivrais si je considérais qu'après, il n'y avait rien. Peut-être que je suis quelqu'un qui aurait essayé plein de trucs. De la drogue, je sais pas. De toute façon, il n'y a rien derrière. Autant profiter, Je sais pas. C'est une bien triste, je crois, considération de la fin. Mais elle n'est pas la nôtre. Pour nous, notre avenir est glorieux. J'espère que vous en avez conscience. Lorsque Christ reviendra, il mettra fin au mal et nous vivrons pour toujours la joie parfaite d'être auprès de notre Seigneur et Sauveur. Vous y pensez à ça? Ah, le monde en ce moment, mais la suite, elle fait envie. Cette considération, elle modifie drastiquement notre manière de vivre. On ne vit plus pour le présent, pour notre plan de carrière, pour la richesse, pour notre confort, pour mettre les enfants à l'abri ou je ne sais quoi, on vit pour notre glorieuse espérance. Ce que dit le Seigneur en Matthieu, ne cherchez pas les trésors sur la terre, mais misez plutôt sur les trésors dans le ciel, ceux qui ne peuvent pas être volés à la merci des rouilles, etc. etc. On n'a pas le même objectif, on n'a pas la même perspective. Ce qu'il y a sur terre va disparaître. Quand on va mourir, on ne va rien emporter avec nous. Par contre, nos richesses dans le ciel, elles, on va toujours les garder. J'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus rentable que la bourse. Et puis, pour le coup, il n'y a pas de risque. Ça, c'est encore mieux. On a tout à y gagner. Quand j'étais plus jeune et que je commençais à m'intéresser à la conduite en voiture, mon père a toujours eu l'habitude de râler sur les mêmes sujets par rapport aux autres conducteurs. J'ai parfois un peu hérité de ça de lui, mais il dit toujours « Ah, les gens en voiture, ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur capot. » Ça veut dire qu'ils n'anticipent pas. Ils ne regardent pas les panneaux qu'il y a plus loin. Ils ne regardent pas les intersections. Ils réagissent toujours un peu à la dernière minute, brusquement. Ça, mon père, ça avait tendance à le gonfler un peu, Pourquoi je reprends cette image? Parce que parfois, en tant que chrétien, on peut vivre un peu de la même manière. On ne regarde pas plus loin que nos difficultés de l'instant T. On ne regarde pas notre glorieuse espérance qui nous attend après. Sur quoi on porte nos regards? On peut être focus que dans l'actualité, hein, en regardant les journaux télévisés de 20 heures et puis en se disant « Oh là là, à chaque fois qu'on éteint, bon bah écoute, moi je vais me coucher parce que là… » Ou alors on peut se dire « Oui, c'est terrible, mais nous, ce qui nous attend, c'est glorieux. » Regardez plus loin pour anticiper. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir, je l'ai dit tout à l'heure. Mais s'il revient maintenant, es-tu prêt? Es-tu prête? Le Seigneur a donné des paraboles, hein, les vierges, etc., ou les femmes qui attendent le retour du maître, et puis il revient, et puis elles ne sont pas prêtes, et puis elles toquent à la porte, et puis il leur dit « Ah, bah, fallait être prête ». Est-ce que nous, nous sommes prêts si le Seigneur revient là? Vivre dans cette attente est positif. Elle n'instaure pas que la peur, j'espère. Plutôt la crainte qui, elle, est bonne. C'est positif. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une source de motivation et de stimulation complémentaire et puissante pour notre conduite chrétienne. Alors, j'en ai pas pris un avec moi, mais quand j'étais plus jeune, ça se fait encore, vous pouvez en trouver sur Internet, il y avait beaucoup de jeunes qui portaient un bracelet avec écrit WWJD dessus. Peut-être qu'il y a des jeunes dans l'église qui l'ont, je ne sais pas. What will Jesus do? Que ferait Jésus? Pourquoi ils portaient ce bracelet? Ce n'était pas simplement pour montrer qu'ils étaient chrétiens. C'était pour se dire, quand je fais face à une situation où je dois faire un choix, je me pose avant tout la question, que ferait Jésus dans ce choix? Et c'est très intéressant, je trouve, car ça nous fait réfléchir sur cette notion de ne pas considérer que moi dans une décision que je dois prendre, mais de considérer ce que veut mon Seigneur et Sauveur. Que ferait Jésus par rapport à ce choix de carrière, par rapport à ce choix d'études, par rapport à la personne que je vais fréquenter? Que ferait Jésus? Et je crois que c'est très intéressant comme réflexion. Je vous invite à la garder à l'esprit, WWJT, What Will Jesus Do? Il y a aussi un autre élément qu'on doit considérer, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la grâce. Mais est-ce qu'on considère la grâce dans nos relations? Est-ce que quand j'ai quelqu'un qui me blesse, est-ce que je suis plutôt en l'optique de dire « Toi, tu vas voir. Vengeance. Tu vas payer. » Ou est-ce que je suis dans l'optique de « Écoute, je te pardonne. » On n'y pense plus. Je te fais grâce. Comme le Seigneur m'a fait grâce. À des ennemis, je le rappelle encore. J'ai toujours été interpellé de voir que dans la Bible, quand quelqu'un pêche, il demande pardon à Dieu. Je me dis, mais il faut demander pardon à la personne à qui tu as fait du mal. David, par exemple, il demande pardon à Dieu. Parce qu'en fait, la première personne qui est lésée face au péché, c'est Dieu lui-même. Et le Seigneur nous pardonne. Est-ce que moi aussi, j'ai la relation de la grâce avec mes frères et sœurs? Ou est-ce que je suis dans le jugement, dans la dureté de cœur? Ou est-ce que je fais grâce? Ça ne veut pas dire, attention, hein, une grâce bon marché, oui, bon, allez, je pardonne, et puis, non, non. Quelque chose de vrai, travaillé, authentique, qui coûte. Parce que la grâce, elle a coûté au Seigneur. Hein. Pour nous, elle est gratuite à accueillir. Mais elle a coûté le Fils de Dieu. Hein. Très cher. Est-ce que moi, dans mes relations aussi, je vis la grâce de Dieu? Lui m'a fait grâce. Est-ce que moi, je fais grâce? Puisque Paul fonctionne autrement dans son épître à Tite, il part de la pratique pour revenir à la doctrine. Suivons alors son cheminement. De toute façon, c'est la parole de Dieu, je ne ferai pas mieux. L'apôtre vient de développer l'influence que doit avoir la grâce de Dieu dans tous les pans de notre vie. Revenons à l'exemple parfait, Jésus-Christ. Raymond Denis Point, je vous rassure, on va aller beaucoup plus vite, c'était le plus gros. Lisons ensemble Tite 2, verset 14. Jésus-Christ, donc, s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Tiens, Colossiens tout à l'heure, les œuvres bonnes, on y revient. Et puis dans les chapitres précédents aussi, il était question d'œuvres bonnes. C'est un sujet récurrent de l'Épître, vous l'aurez compris. Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, dans le verset précédent, s'est livré lui-même pour nous. Cette affirmation, quand on la considère, elle est particulièrement choquante quand on y réfléchit. Comprenons bien. Notre grand Dieu, Dieu en personne, le Créateur de toutes choses, des galaxies, de l'univers tout entier, s'est fait homme et venu sur terre. En prenant notre condition, c'est-à-dire il s'est fait homme, en se dépouillant de la gloire divine, dit Paul aux Philippiens. Quel contraste entre les titres pleins de grandeur qu'on vient de lire et celui qui vient se donner. Il s'est livré lui-même à notre place. Il y a là quelque chose de scandaleux, je trouve. C'est pour ça qu'on parle du scandale de la croix. Dieu venant souffrir et mourir à ma place. On ne parle pas de n'importe qui, là. Hein. Dieu lui-même venant souffrir et mourir à ma place. Ça n'a aucun sens. C'est scandaleux. Subir ma juste condamnation, c'est même pas, il vient pallier une injustice. Non, c'était juste. Celle que je méritais. C'est là toute la puissance du christianisme. C'est la seule religion où ça existe. C'est la seule religion, il ne faut pas remplir des œuvres, faire des rites et des machins pour être sauvé. C'est Dieu lui-même qui vient et qui fait pour nous sauver parce qu'il nous aime. Ça n'existe pas ailleurs. Pourquoi ? Son objectif est clairement décrit. Afin de nous délivrer de toute désobéissance. On raconte plein de choses sur le péché qui sont plus ou moins justes. Par exemple, c'est le fait de manquer la cible. En fait, ça, c'est pas très juste. Le péché, c'est la corruption de l'intégralité de notre être qui nous pousse à désobéir aux commandements que Dieu nous a donnés. C'est ça, le péché. Depuis la chute d'Adam, nous sommes tous des êtres corrompus. C'est comme si on avait tous la même maladie qui nous corrompt de l'intérieur, qui nous pourrit physiquement, qui nous pourrit moralement, qui nous pourrit éthiquement, etc., etc. Nous sommes tous esclaves de nos propres désirs, esclaves d'un maître, le péché. C'est pour ça que Luther, Martin Luther, le réformateur, a écrit un ouvrage assez conséquent qui s'appelle « Du serf-arbitre ». C'est pour répondre à la notion de libre-arbitre. Non, l'homme n'est pas un être libre. Il est esclave de son péché. C'est ça la réalité. Cet esclavage nous pousse à vivre dans la désobéissance de Dieu. Mais en nous rachetant, Dieu nous libère de ce mauvais maître, de son influence. Il nous délivre de la désobéissance. Il y a un changement de maître qui s'opère. On passe du péché à Jésus-Christ. Pourquoi encore, second objectif, afin de faire de nous un peuple qui lui appartienne en nous purifiant. En ayant Christ pour Seigneur, un changement de maître s'opère. Nous ne servons plus nos désirs animés par le péché, mais nous servons celui qui nous a rachetés et purifiés, Jésus-Christ, notre Sauveur. Avec ce changement majeur, nous intégrons un peuple composé de frères et sœurs qui reconnaissent Christ comme Sauveur et Seigneur. En fait, on reconnaît tous la même chose. Un peuple composé des enfants que Dieu le Père a adoptés dans sa grâce. C'est Romains 8, ça. L'adoption. Dieu nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants. C'est pour ça que Paul peut dire « Nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu ». C'est pour ça qu'on disait « L'espérance, elle est glorieuse ». Qui de vous peut prétendre hériter d'un royaume ? Et là, on ne parle même pas d'un royaume humain avec son château, ses fiefs, ses serfs. Non, non, on parle du royaume de Dieu. Encore plus grand, hein ? Notre glorieuse espérance. Ce rachat ne fait pas de nous des êtres émancipés d'eux-mêmes et vivant libres d'aucun maître. Ah, Dieu nous a rachetés, et donc maintenant nous sommes pleinement libres. Ni Dieu ni maître, hein, comme je crois que je ne sais plus c'est Nietzsche qui a écrit ça, ou ni Dieu ni maître, etc. Non, nous appartenons à Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, qui s'est livré lui-même pour nous. La vraie liberté ne réside pas dans le fait de ne pas avoir de maître. La vraie liberté réside dans le fait d'avoir Christ pour maître. Vous voyez la nuance ? Troisième composante, afin que nous mettions toute notre ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Si Dieu lui-même nous a délivrés de toute désobéissance, cela implique forcément l'autre côté, de notre part, l'obéissance. Ces œuvres bonnes qui plaisent à Dieu et qui manifestent notre reconnaissance pour la grâce qu'il nous a manifestée par son Fils Jésus-Christ. Ces œuvres ne sont pas méritoires. Je le répète quand même. Elles sont la manifestation d'une foi authentique, d'une foi sincère. En fait, ces œuvres, ce sont les offrandes agréables que nous offrons au Seigneur, à notre grand Dieu, à celui qui nous a sauvés et auquel lui prend plaisir. C'est ce que dit Paul à Romains 12, chapitre 12, versets 1 et 2, texte que vous connaissez. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. » Il ne dit même pas que c'est un super culte incroyable. Hein. Il dit que c'est la base. C'est le classique, c'est le minimum que vous pouvez faire. Un culte raisonnable. « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Par la transformation que l'Évangile opère dans votre cœur, dans votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi ? Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est à ça qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à la sincérité du cœur. Dernier point, la mission, verset 15. Paul s'adresse à Tite. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Paul complète ici l'ordre de mission qu'il donne à Tite, son enfant dans la foi. Enseigner l'Évangile pour qu'il soit pleinement vécu. Le lien entre théologie et pratique n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas toujours facile de le trouver. Pourtant, ici, il est très clair. L'Évangile ne doit pas seulement être de la connaissance. Il y a plein de gens qui connaissent l'Évangile, hein, et parfois même mieux que nous, les chrétiens. Mais il doit non seulement être connu, mais il doit être vécu dans tous les aspects de notre vie. Et on les a vus, si on se réfère au début du chapitre 2, dans le cadre de la famille, dans le cadre du travail, dans le cadre de l'Église. Est-ce que je vis l'Évangile partout ? Ou est-ce que je le conditionne à certains côtés, certains domaines seulement ? Certains le conditionnent qu'à l'Église. Hein. Ils deviennent chrétiens quand ils rentrent, ils louent le Seigneur, deux, trois chants, la prière, merci pour l'édification, et puis ils repartent. Ils enlèvent leur statut de chrétien et puis ils le reprendront dimanche prochain. J'espère que ce n'est pas votre cas. Tout ce travail sur soi qui concerne chacun d'entre nous prend du temps. Il prend de la patience, de la nécessité, des encouragements et parfois même d'être repris afin d'être réorienté dans la bonne distinction. Et ça, c'est le travail des anciens. Voilà ce que Tite doit faire. Enseigner l'Évangile pour qu'il soit vécu, pas seulement connu. Enseigner l'Évangile pour qu'il soit vécu et pas seulement connu. Cette mission, il doit l'accomplir avec une pleine autorité, dit l'apôtre. Avec assurance, car c'est ce que Dieu attend de lui. Et c'est aussi ce qu'il attend de ses auditeurs. À l'instar de Timothée, Tite était jeune. Alors quand on dit qu'on était jeune dans la Bible, c'est-à-dire qu'on avait moins de 40 ans, je suis concerné. Et cela pouvait constituer une difficulté supplémentaire, considérant que les églises de l'époque, elles fonctionnaient beaucoup sous le système de la synagogue. C'est-à-dire que les gens qu'on écoutait étaient les gens qui étaient âgés. Donc le jeune qui arrive, sa crédibilité, elle était un peu moindre parce qu'il était jeune. Mais Paul rappelle que la vérité est plus importante que celui qui l'annonce. La vérité est plus importante que celui qui l'annonce. Enfin, pour que Tite ne soit pas méprisé, il doit conformer sa vie avec ce qu'il annonce. Ça, c'est dur. Sinon, il perd en crédibilité, non seulement pour lui, mais aussi pour son message. Ça ne marche pas, celui qui va à la chair et qui vous dit « Bon, voici ce qu'il faut faire, mais ne faites pas ce que je fais. » Ça ne marche pas. Il faut être crédible. C'est pour ça que je reviens sur l'exhortation que j'avais donnée la dernière fois sur le fait que les anciens doivent être des gens à imiter. Paul avait donné la même recommandation à Timothée, chapitre 4. « Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais force-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. » Si dans notre texte, Tite est visé personnellement, gare à nous tous ici, qui connaissons l'Évangile, de ne pas le discréditer en menant une vie qui ne glorifie pas celui qui nous a révélé la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que nos enfants, premièrement, mais les gens du monde, nous regardent. Quand vous dites que vous êtes chrétien, si vous vivez n'importe quand, n'importe comment, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Ah, c'est ça être chrétien ? Ouais, bon, c'est de la façade, quoi. Ça discrédite le témoignage. Souvenons-nous de l'objectif du verset 10, le témoignage de l'Église dans la société. En conclusion, existe-t-il pour nous quelque chose de plus grand que la grâce de Dieu ? Cette question est fondamentale pour tout chrétien, car la réponse que nous apportons conditionne notre mode de vie. Dieu a fait le premier pas pour nous. Il a été à l'initiative en envoyant son Fils pour nous sauver, alors qu'aucun de nous n'était né. Mais l'évangile de la grâce n'appartient pas au passé. Il modifie notre présent, notre vie, tous les jours. Il nous transforme en profondeur pour faire de nous des hommes et des femmes qui honorent Dieu dans tous les aspects de notre existence. Il change aussi notre considération du futur pour faire de notre espérance une source de motivation et de stimulation dans l'attente de la révélation de la gloire de Jésus-Christ. L'œuvre de Christ ne doit jamais devenir anodine pour nous, comme un acquis que nous n'avons plus besoin de considérer. On me l'a déjà dit, Oh, tu prêches l'Évangile, je l'ai déjà entendu plein de fois, maintenant c'est bon. C'est grave de dire ça, je trouve. Au contraire, elle doit toujours nous émerveiller de ce que Dieu, dans son amour, a pu réaliser pour te sauver et te racheter du péché. Enfin, n'oublions pas que notre manière de vivre se voit et qu'elle constitue un puissant témoignage pour le monde. Révérer l'Éternel par notre vie est à la fois la plus belle offrande que le Seigneur agrée, mais aussi une magnifique présentation de la grâce de Dieu pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Ici, les cinq solas du protestantisme se regroupent. Sola gratia, la grâce de Dieu seul nous sauve, par le moyen de la foi authentique, celle qui porte du fruit les bonnes œuvres dont nous avons parlé, sola fide, la foi centrée sur la révélation même de la gloire de Dieu, Jésus-Christ, solus Christus, conformément enseignée par les saintes Écritures, ordre donné à Timothée, verset 15, sola scriptura, pour la seule gloire de Dieu et non la nôtre, soli Deo gloria. Amen.